rapport numéro 2 concernant la présentation du compte administratif 2018 qui vous est présenté par l'adjoint aux finances Jean-Claude Giraud. Tu as la parole, Jean-Claude.
Je propose de commencer directement par l'examen de la deuxième annexe de ce deuxième rapport. Il s'intitule Récap CA 2018.
C'est pas ça, hein ? C'est bon, vous l'avez tous ? Récap compte administratif.
Récap CA 2018. C'est le schéma. Donc, je ne sais pas si tout le monde est là.
Oui.
Bon, donc, cette annexe reprend les chiffres du rapport et explique la mécanique financière qui mène à l'affectation du résultat de fonctionnement cumulé 2018 dans les comptes 2019. Les modalités de cette affectation feront par ailleurs l'objet d'un vote au rapport numéro 3. Cette annexe joue donc le rôle d'interface entre le compte administratif 2018 et le budget 2019. En 2018, le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 1 192 115 euros. Compte tenu du résultat 2017 reporté, on obtient fin 2018 un résultat cumulé de 4 2 799 euros. Au-dessous, en section d'investissement, compte tenu du résultat négatif de 2018, soit 321 566 euros, et du déficit 2017, qui s'élève à 209 252 euros, on aboutit à un déficit de clôture cumulé de 530 818 euros qui doit être soldé grâce à l'affectation du résultat de fonctionnement cumulé. Ensuite, viennent les restes à réaliser en dépenses et recettes qui font naître, eux aussi, un besoin net de financement supplémentaire de 536 043 euros. On retrouvera ces restes à réaliser en dépenses et recettes en section d'investissement au compte administratif 2018 ainsi que leur reprise au budget 2019. Au final, compte tenu du déficit de clôture et des restes à réaliser nets, le besoin global de financement de la section d'investissement s'élève à 1 066 681 euros. En bas de page, le schéma indique comment seront affectés les 4 2 799 euros du résultat de fonctionnement 2018. 1 066 861 euros seront virés en section d'investissement pour solder le déficit de cette section. On retrouvera donc logiquement ce montant en recettes d'investissement au BP 2019. Quant au solde du résultat de fonctionnement, soit 2 935 938 euros, il sera reporté en recettes de fonctionnement au budget 2019 et contribuera ainsi à sécuriser le financement de l'activité quotidienne de la commune. On retrouvera par ailleurs cette ventilation du résultat dans la présentation schématique de la balance du BP 2019. Alors, on peut en venir maintenant vraiment au compte administratif proprement dit, en ouvrant la première annexe intitulée « Récapitulatif par chapitre CA 2018 ». Donc, ce sont les tableaux de chiffres, en fait. Je ne sais pas si tout le monde... Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Récap.
C'est le tableau de chiffres. C'est le tableau de chiffres. Hein,
c'est ça. Ouais.
Je sais pas. Tout le monde dit non. Alors donc, comme vous le savez, le compte administratif retrace l'exécution du budget par l'ordonnateur, c'est-à-dire par le maire. Il doit coïncider avec le compte de gestion tenu en parallèle par le comptable public. Ce qui vient d'être acté il y a peu. Rappelons que les comparaisons se font de CA à CA et que le budget 2018 a été adopté dans une présentation par chapitre joint en annexe. Commençons par les dépenses de fonctionnement en ciblant les opérations réelles, en observant toutefois que dans la dernière colonne, tous les chapitres de dépenses réelles sont en baisse, ce qui va dans le bon sens. Si on considère le total des dépenses réelles, la baisse de 2,37% correspond à une baisse globale des dépenses de 130 783 euros. Pour en avoir l'explication, on va donc descendre au niveau des chapitres. Le premier C'est le chapitre 011, charges à caractère général. Alors, celui-ci regroupe les consommations de biens et services nécessaires à la mise en œuvre de l'action municipale, hein, les frais généraux en quelque sorte. Après avoir connu une hausse de 8,30% en 2017, il baisse de 1,40% en 2018, ce qui ramène le ratio par habitant à un niveau comparable à celui de 2015, comme cela avait été pressenti lors du débat d'orientation budgétaire. Si l'évolution d'une partie des charges à caractère général est relativement prévisible, l'autre est sensible à la conjoncture, à notre politique d'investissement et aux aléas qui émaillent la vie de toute organisation. On comprend donc que l'évolution de ce chapitre n'est pas linéaire. C'est un chapitre globalisé qui représente 28% des dépenses de gestion courante et qui, selon la terminologie comptable, distingue trois catégories de charges. La première catégorie concerne les achats, tels que les fournitures diverses, les denrées cantines, l'électricité, le carburant par exemple. Avec 559 175 euros, cette catégorie représente 37% du chapitre et baisse de 1,39%. Cette baisse s'explique essentiellement par celle des denrées alimentaires. La deuxième catégorie concerne les services extérieurs, à savoir les dépenses facturées par les entreprises pour l'exécution d'un service, comme le nettoiement, l'animation, l'entretien des bâtiments et de la voirie notamment. Avec 643 412 euros, cette catégorie représente 43% du chapitre et baisse de 1,53%. À la hausse, dans cette catégorie, on trouve les locations mobilières, l'entretien des bâtiments et les sinistres voiries notamment. À la baisse, on trouve les contrats de maintenance, les assurances et les études par exemple. La troisième catégorie concerne les autres services extérieurs, à savoir les frais de transport, de télécommunication, de communication et les prestations de profession libérale, par exemple. Avec 279 607 euros, cette catégorie représente 18,5% du chapitre et baisse de 1,82%. À la hausse, dans cette catégorie, on va trouver les frais de contentieux et les taxes foncières que paie la commune. À la baisse, on trouve les frais de transport et les prestations autour de la maison de Garonne. Voilà donc pour le chapitre 011. On peut donc passer au chapitre suivant, qui est le 012, charges de personnel. Avec 59,30% des dépenses réelles, c'est le chapitre qui pèse le plus. Après la hausse de 1,49% en 2017, il affiche une baisse de 1,17% en 2018, pour s'établir à 3 191 331 euros. Compte tenu d'un remboursement de 245 091 euros sur les arrêts maladie et des charges syndicales notamment, la charge nette de personnel s'élève à 2 987 025 euros, soit 35 500 euros de moins qu'en 2017. Les salaires des enseignants intervenant dans le cadre du PEDT, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, s'élèvent à 8 828 euros en 2018 contre 7 584 en 2017. Pour les baisses intervenues dans ce chapitre, on trouve la disparition du coût des agents recenseurs, qui était une dépense ponctuelle en 2017, soit 12 000 euros, et la diminution de 4 000 euros des remplacements. Pour les hausses, il s'agit essentiellement de l'évolution normale de la carrière des agents. Globalement, depuis 2015, le ratio des dépenses de personnel ramené au nombre d'habitants est resté stable, voire régresse, comme on a pu le constater lors du débat d'orientation budgétaire. Voilà pour les dépenses de personnel. Ensuite, au compte 014, on trouve ici depuis 2017 un dégrèvement de 400 euros de taxes foncières pour les jeunes agriculteurs. Puis, chapitre suivant, chapitre 65, autres charges de gestion courante, ce chapitre affiche un montant de 653 919 euros et une baisse de 8,64%. Dans ce chapitre sont enregistrées les subventions aux associations, les versements aux organismes intercommunaux, tels que le CIBU Cobert, le CIBU Centre de Loisirs et au CCAS. La baisse est due essentiellement au montant de la subvention d'équilibre versée au CCAS, 330 000 euros contre 400 000 en 2017. Au chapitre 66, charges financières, la baisse de 23,30% rend compte de la diminution logique des frais financiers accompagnant le désendettement. Au chapitre 67, charges exceptionnelles, on trouve notamment les annulations de titres de TLPE et de cantine. Voilà donc pour les dépenses réelles. Pour en finir donc avec les dépenses, on trouve notamment au 0,42 en opération d'ordre les amortissements que l'on retrouvera en recettes d'investissement en 2019. On peut donc maintenant aller dans le tableau des recettes. Le total des recettes réelles n'augmente que de 0,24%, donc moins que l'inflation. Cette augmentation génère un produit supplémentaire qui n'est que de 16 561 euros. Alors, descendons au niveau du chapitre, en commençant par le 0,13 atténuation de charges. On trouve ici pour 245 091 euros le remboursement par l'assurance des rémunérations des agents titulaires en arrêt de longue durée, le remboursement des rémunérations des agents en décharge syndicale et les chèques déjeuner. Ce chapitre qui a permis de calculer la charge nette du personnel que l'on a vu tout à l'heure se maintient au même niveau qu'en 2017. Son évolution dépend toutefois de la conjoncture. Ensuite, on peut passer au chapitre 70, produits des services, qui affiche un montant de 212 635 euros et une baisse de 15,70%, qui touche le produit cantine, l'accueil de loisirs et la valorisation du coût du personnel mis à la disposition de l'ALJPR. Ensuite, au chapitre 73, impôts et taxes. C'est le plus fort de nos chapitres de recettes. Après n'avoir progressé que de 1,81% en 2017, il récidive avec 1,86% en 2018. Ces faibles progressions s'expliquent notamment par le fait que l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, qui représentent 27% du chapitre, sont figées dans le temps. Dans ce chapitre, on trouve les impôts locaux qui augmentent de 3% grâce à la variation physique des bases et à leur revalorisation. On trouve aussi la hausse de 6 000 euros des droits de mutation venant après la très forte hausse de 70 000 euros en 2017. Ici, les variations sont dépendantes de la conjoncture. À la baisse, on trouve principalement la TLPE qui perd 21 000 euros après les 36 000 euros perdus en 2017. Depuis qu'elle a été instaurée, elle ne cesse de régresser. Voilà pour le chapitre 73. On va donc passer au chapitre 74, dotation et participation. Ce chapitre représente 7% des dépenses de gestion courante. La baisse de 11,18% est principalement due à celle de la DGF. Sans celle-ci, la baisse du chapitre n'aurait été que de 5,6%. Donc on passe de 11,18% si on exclut la DGF. La vraie baisse du chapitre serait de 5,6%. Parmi les autres baisses, on peut signaler celle du fonds de soutien pour les TAP, soit 3 000 euros, compte tenu de la diminution du nombre d'enfants. Pour les hausses, on peut signaler les 4 000 euros des contrats CAF et les 3 200 euros de la dotation de solidarité rurale. Au chapitre 75, autres produits de gestion courante, on note une très forte hausse de 20 000 euros, soit 31,46%. Elle résulte de l'augmentation des locations de l'espace culturel pour 11 500 euros et celle des autres salles pour 9 700 euros. Voilà pour les 5 chapitres de recettes de gestion courante. Ensuite, au chapitre 76, on trouve comme tous les ans le remboursement par la MARPA des intérêts de ses emprunts en baisse logique. Au chapitre 77, sont enregistrés des produits exceptionnels, donc aléatoires par définition. En 2018, la baisse de ce chapitre résulte pour l'essentiel d'une diminution des cessions. Pour terminer, on trouve au chapitre 042, en opération d'ordre, la valorisation des travaux en régie. En conclusion, en fonctionnement, si nos recettes augmentent peu, nos dépenses diminuent de façon significative. L'écart entre les deux variations entraîne mécaniquement une progression de notre épargne déjà structurellement élevée. C'est une progression vertueuse car elle repose essentiellement sur une réduction des dépenses. Passons maintenant à la section d'investissement. En matière d'investissement, chaque année est singulière de par la nature des projets réalisés et dépend en volume de la planification retenue dans le cadre du PPI. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, d'autant que le cycle des investissements n'épouse pas nécessairement le rythme annuel, d'où parfois des restes à réaliser conséquents. Alors, on commencera par les dépenses en considérant dans la colonne mandat émis le sous-total des dépenses d'équipement qui est en lien direct avec les projets. Comme cela avait été annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, ce sous-total de 1 503 492 euros correspond à un taux de réalisation de 50%, d'où des restes à réaliser importants au titre de 2018. Pour info, l'aglo est à 43%. Venons-en au chapitre, toujours en considérant la colonne mandat émis. Au chapitre 20, immobilisation corporelle, dans le total de 66 289 euros, on trouve principalement les études en lien avec nos projets, les licences informatiques et les frais d'insertion. Au chapitre 204, subventions versées, dans le total de 16 270 euros, on trouve les fonds de concours versés à l'agglo pour l'éclairage et au SDE pour l'effacement des réseaux. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, on trouve pour un total de 784 177 euros toutes les réalisations terminées en 2018. On remarquera au passage que ce montant est nettement supérieur à celui de 2017. Parmi les opérations les plus conséquentes, on trouve les travaux sur les bâtiments, les cimetières, les installations et aménagements de construction, le matériel et l'outillage, le mobilier, divers réseaux, la voirie, du matériel de transport, du matériel de bureau et informatique. Ces quelques exemples représentent 86% du chapitre. Au chapitre 23, immobilisation en cours, on trouve un total de 660 755 euros qui représentent des travaux en cours concernant l'aménagement du pôle scolaire, la voirie pour la troisième tranche de la Carrérotte et l'avenue de Bigorre. Voilà pour les dépenses d'équipement. Au montant de ces chapitres s'ajoute toutefois un total de 566 867 euros de restes à réaliser qui seront reportés en dépenses d'investissement au budget 2019. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, on constate le remboursement en capital des emprunts en 2018, soit 168 486 euros. Au compte 4 581, on trouve pour 175 349 euros le coût des opérations réalisées pour le compte de l'agglo du département pour l'avenue de Bigorre, à charge pour ses partenaires de nous rembourser. Voilà donc pour les dépenses réelles. Pour finir, en opération d'ordre, on trouve au chapitre 040 les travaux en régie dont nous avions vu la valorisation en recettes de fonctionnement au chapitre 042. Au chapitre 041, opération patrimoniale, on trouve pour 80 391 euros l'intégration au patrimoine communal des études des projets terminés. On retrouvera aussi ce montant en recettes, ce qui au final est neutre. Ensuite, on peut passer aux recettes d'investissement. Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 1 124 039 euros et sont ventilées dans les chapitres suivants. Au chapitre 13, on trouve les subventions pour un total de 267 821 euros qui représentent quasiment le total des recettes d'équipement. Dans ce total, on trouve la DETR pour la salle Chaussard et le bâtiment scolaire, la CAF pour l'accueil de loisirs et le FST. Au chapitre 10, on trouve le remboursement par l'État de la TVA que la commune a supporté sur ses investissements, soit 325 219 euros, et la taxe d'aménagement pour 90 000 euros, soit donc au total 415 138 euros. Au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, on trouve pour 412 577 euros le virement de l'excédent de fonctionnement dégagé en 2017, permettant de faire face aux besoins de financement de la section d'investissement constatée au compte administratif 2017. Au chapitre 27, immobilisation financière, on trouve le remboursement par la MARPA du capital de son emprunt. Et pour finir, en écriture d'ordre, on trouve au chapitre 040, 470 622 euros notamment pour les amortissements déjà vus en dépenses de fonctionnement. Au chapitre 041, on trouve les intégrations des études au patrimoine déjà vues en dépenses pour le même montant. Alors, en vertu des considérants et références juridiques détaillées dans le projet de délibération, je vous propose, chers collègues, de bien vouloir adopter, hors la présence de Monsieur le maire, le compte administratif tel qu'il vient d'être présenté.
Merci, Monsieur l'adjoint. Alors, avant le vote, je me retirerai, bien entendu, mais peut-être avez-vous des questions, des interventions sur ce compte administratif 2018. La parole vous sera donnée. Voilà, merci en tout cas à Jean-Claude Géraud pour ses explications et ses commentaires pertinents et en tout cas éclairants, me semble-t-il, voilà, sur les variations à la baisse des dépenses de fonctionnement, légère hausse des recettes de fonctionnement, sur nos investissements avec le report d'opérations, ce qui nous donne cette année un taux d'exécution en investissement qui est plutôt plus bas que les autres années, mais nous allons voir tout à l'heure au budget primitif que les opérations qui n'ont pas été réalisées pour des raisons diverses en 2018 sont reportées en 2019, ce qui gonfle un peu notre programme d'investissement 2019. Voilà les amis, avez-vous des questions? Il n'y en a pas? Eh bien écoutez, je vais... Si, pardon, Madame Bonfanti.
Donc, concernant les dépenses de fonctionnement, bon, l'opposition prend acte qu'il y a une maîtrise des dépenses, ce qui n'est pas forcément le cas l'année dernière. Il y a lieu de saluer ces efforts et les efforts que chacun a fait pour arriver à ce résultat. On note que les recettes de fonctionnement ne subissent pas d'évolution, l'augmentation des impôts étant compensée en partie par la baisse des dotations. Là où effectivement le bas blesse, c'est concernant les dépenses d'investissement, car pour, on a présenté 3 millions d'euros d'investissement au budget et seuls 1,5 million d'euros ont été réalisés, soit, comme vous l'avez dit, à peu près 50%. Si le budget 2018 avait été bâti avec des recettes ou des dépenses de et des dépenses de fonctionnement réalisables, le budget de la commune aurait été nettement bénéficiaire. Or, le budget d'une commune doit être en équilibre, c'est-à-dire que les dépenses doivent être égales aux recettes. Et donc, au lieu d'augmenter les dépenses de fonctionnement et de fixer un montant d'investissement non atteignable, on aurait pu baisser les recettes de fonctionnement en rendant aux Boétiens un peu de pouvoir d'achat en baissant les taux d'imposition.
Très bien. Alors, ça, c'est... là, on est dans la discussion.
Pour les impôts, pardon.
Bon, cette approche-là est évidemment respectable et rien ne dit qu'à l'avenir... les choses ne se passeront pas comme ça si effectivement la situation financière de la commune est bonne et donc et si les besoins d'un investissement n'étaient pas à la même hauteur qu'actuellement, etc. En effet, il faudrait se poser la question. Bon, pour le reste, je pense qu'il faut se garder de toute tentation opportuniste. Je veux dire qu'il est facile, une année, effectivement, de vouloir afficher des taux d'imposition à la baisse, et forcément que ce serait sans doute dans une mesure très, très limitée, et il y aurait une part d'affichage que, après tout, on peut comprendre, mais il faut se méfier des fluctuations. Personnellement, je pense que le fait de pouvoir dire que depuis 2003, les taux d'imposition n'ont pas augmenté, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commune a maîtrisé ses dépenses et conduit sa gestion avec des moyens égaux d'une année sur l'autre. Alors vous allez me dire, mais monsieur le maire, les bases d'imposition ont été vues à la baisse, à la fois parce qu'il y a une progression physique dans une commune qui a un certain dynamisme comme la nôtre, il y a des installations nouvelles, etc., etc., des extensions et autres, et puis il y a la revalorisation forfaitaire. Bon, la progression physique des bases et par conséquent du produit fiscal, elle entraîne a priori aussi des besoins nouveaux. Donc, elle est censée correspondre à des besoins nouveaux, des services nouveaux, davantage d'accueil à la cantine, etc. Enfin, bon, ce n'est pas le cas cette année parce qu'on a des effectifs plutôt à la baisse, mais voilà, normalement, s'il y a une progression physique du produit fiscal, c'est qu'il y a plus d'habitants, plus, et par conséquent, en principe, plus de besoins. Après, il y a la réévaluation forfaitaire. La réévaluation forfaitaire, elle est conduite et décidée par l'État tous les ans, et elle est censée représenter l'évolution du coût de la vie. Voilà, tout simplement, on constate d'une façon générale que dans nos services, comme dans le fonctionnement d'un budget ménage, eh bien, on constate qu'il y a des prestations qui sont plus chères. Il y a des choses qu'on voit à la baisse, et dans les commentaires qu'a pu faire Jean-Claude Giraud, on a pu en constater quelques-uns, mais on constate aussi que nos prestataires, en assurance, en études, en interventions diverses, bon, ils sont plutôt à la hausse, et c'est précisément cette revalorisation forfaitaire de l'État qui est censée correspondre à ça. Donc, on est un peu à données constantes, et moi, je suis plutôt partisan de voir les choses sur le long terme et de se dire, voilà, si nous arrivons à faire fonctionner la mairie, à donner des services de qualité sans augmenter les taux d'imposition, autrement dit, la pression fiscale que supportent nos concitoyens, elle sera à la hausse dans la simple mesure de la revalorisation liée à l'inflation. Voilà, je pense que c'est bien. Alors après, vous proposez, Monfanti, en effet, de baisser les taux d'imposition. Je veux dire, on peut l'entendre. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Et, voilà, je pense que c'est une vision sur le long terme, parce que rien ne vous garantit que vous allez avoir une gestion qui ne sera pas bouleversé d'une façon ou d'une autre. Alors, vous savez, j'ai appris ce matin que, et j'étais au département aujourd'hui où on a discuté un petit peu de ça, il semblerait que les choses se précisent un peu concernant la compensation des exonérations de taxes d'habitation décidées par le gouvernement. Voilà. Et aujourd'hui, l'option qui semble tenir la corde serait que le produit fiscal de taxes sur le foncier bâti perçu par le département glisserait sur les communes. Quant au département, il serait compensé par des ressources en provenance de la CSG, de la CVAE, etc., etc. Bon, tout ça reste flou un peu. Donc le département aura à gérer cette transition. Mais nous aurons aussi, nous, à mesurer les éventuels à-coups ou évolutions de tout ça. Comment ça va se mettre en place? Comment, je l'espère, hein, comment le produit fiscal que nous avions en taxe d'habitation sera garanti avec la nouvelle formule. Il faudra être très attentif, je le dis à ceux qui ont en charge cette affaire-là, être très attentif en effet à ça. Vous voyez, donc il y a toujours, d'une année sur l'autre, quelques évolutions qui peuvent nous conduire à être prudents sur ça. Mais bon, je vous ai répondu, Madame Bonfanti, parce que on est dans un débat, hein, qui a toute sa place dans un débat budgétaire. Hein. Vous nous dites qu'il faut baisser les impôts. Moi, je vous dis, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut avoir l'esprit de responsabilité qui nous commande d'examiner ça sur le long terme et de veiller déjà au maintien des taux d'imposition. C'est pas si mal. Voilà. Mais on est dans le débat. Qui souhaite intervenir? Monsieur Roux.
Monsieur le maire, excusez-moi de mon arrivée en retard. Je n'ai pas entendu le discours intégralement de Mme Monfanti, mais je pense en connaître la substance. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'observation de l'opposition. L'observation de l'opposition était plutôt de vous dire que vous appelez l'impôt par rapport à un budget primitif qui est en décalage par rapport au budget réel réalisé à la fin de chaque année, puisqu'on constate par exemple qu'il était prévu 3 millions ou 3 millions et demi d'investissements et on est à 1 million et demi cette année. Donc forcément, l'impôt s'en ressent. Ça serait la première année, on ferait peut-être l'observation, mais c'est répétitif. Comme l'impôt, enfin oui, l'impôt est appelé bien sûr à partir de ces lignes-là. Si les lignes d'appel ne sont pas correctes et on le sait d'avance, ben, l'impôt est plus élevé. Donc c'est la première observation. Sur la deuxième observation que vous venez de faire, monsieur le maire, alors je ne vais pas jouer sur les mots ni faire du mauvais esprit parce que je ne suis pas là pour ça, mais par rapport au taux d'imposition, vous nous dites que les taux d'imposition de la commune n'ont pas progressé ces dernières années. C'est à la fois juste et faux. C'est juste, oui, si on les cumule avec ceux du CIVU. Mais quand on ajoute les deux, bien évidemment, les taux ont progressé. Tout ça pour vous dire, comme on l'a dit à plusieurs reprises avant la mutualisation des deux, c'est que il fallait tenir compte depuis l'origine à la fois des taux de la commune et du CIVU, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, notamment lors de la première mandature.
Alors, deux observations. Sur le premier point, je pense qu'il faut s'attacher, dans la détermination du besoin de ressources, il faut s'attacher à l'équilibre de notre section de fonctionnement. Alors, je ne dis pas que le produit fiscal appelé ne va pas être mobilisés pour de l'investissement. Mais ce sera le résultat, en effet, de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, qui dégage ou pas une épargne brute et qui nous permet ou pas, et dans certaines proportions, d'assurer un autofinancement de nos dépenses d'investissement. Mais raisonnons alors, comme je vous y invitais, sur le moyen terme ou le plus long terme. Et ça rejoint votre deuxième question. Vous nous dites, et je vais y revenir, nous avons cette année une exécution du budget d'investissement qui est à la baisse par rapport aux autres années. Ce budget d'investissement inscrit au budget primitif, il n'est réalisé qu'à 51%. Donc, nous avons besoin de moins de ressources pour le financer. Mais je vous disais que, et c'est là qu'il est intéressant, en effet, de rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui n'a pas été exécuté en 2018 dans ce budget d'investissement ? Eh bien, ce qui n'a pas été exécuté, c'est par exemple des travaux que nous avions prévus rue de Lorraine, c'est par exemple les travaux que nous avions prévus en partie aux abords de la mairie, c'est par exemple de la rénovation urbaine que nous avions prévue à Saint-Pierre-de-Gobert et quelques autres opérations peut-être que nous avions inscrites. Je crois que nous avions inscrit des choses en matière sportive du côté de Cancel. Bien, toutes ces opérations, par exemple celles-ci qui tiennent très directement au fait qu'il y a les travaux de la digue aujourd'hui, etc. Bon, bref, il y a des raisons diverses, des retards pris dans les opérations, etc. On ne les réalise pas. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nous allons les réaliser, je l'espère. En tout cas, nous allons les inscrire au budget 2019 avec l'intention de les inscrire. Et par conséquent, nous aurons besoin d'un montant de financement plus élevé que ce que nous aurions fait si ces opérations avaient été réellement exécutées en 2017. Donc, vous voyez, il faut raisonner voilà, sur des moyennes. Voilà la réponse qu'on peut faire là-dessus. Alors, j'ajoute quand même que nous avions, ces dernières années, des taux d'exécution du budget d'investissement très élevés. Quoi. Dans la commune, nous avons toujours eu, et pas toujours, parce que moi, je me souviens, pardon de parler en ancien combattant, là, mais je me souviens quand je m'occupais des finances, là, et j'avais pris le relais d'un monsieur très respectable en matière de finances, qui a été notre collègue ici, Roland Sterlet, et qui, lui, inscrivait, pour des raisons diverses, il avait sa façon d'approcher le budget, et nous avions beaucoup d'opérations inscrites, et avec des taux de réalisation qui étaient autour de 30%, 40%, etc., etc. Bon, c'était une pratique. D'autres collectivités, par exemple l'Aglo et l'Adjoint l'a rappelé, pour cette année, l'agglomération est à 43% d'exécution aussi. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec vous que il faut essayer de s'approcher le plus possible de taux d'exécution, disons au-delà de 70%, et c'est bien. Après, il ne suffit pas d'inscrire, voilà, et je veux le dire et donner un coup de chapeau. Alors vous allez me dire, il ne faut pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est vrai, mais vous savez, il ne suffit pas d'inscrire des opérations comme nous le faisons. Nous inscrivons des opérations parce que vous en avez discuté dans les commissions, parce que vous estimez qu'il faut le faire parce que c'est bon pour la commune, parce qu'on peut le faire, parce qu'on peut le financer, parce qu'on peut le faire, etc. Alors, pouvoir le financer, on le voit assez bien parce qu'on sait quelle est notre situation, avec un endettement proche de zéro, etc., on se dit, oui, on peut faire. Après, il y a la logistique. Et la logistique, elle est, vous savez, c'est comme le canard, là, hein, que l'on voit zen, là, au-dessus de l'eau, et puis qui pédale sous la surface de l'eau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons des services et toute une logistique technique, administrative, qui se met en œuvre et qui est compliquée aujourd'hui. Je veux le dire, je vois le directeur de service, la directrice adjointe qui est aux manettes aussi, sur les marchés publics et tout ça. C'est compliqué. Et il peut arriver aussi que... voilà. Et on me dit, moi j'entends, et vous entendez aussi, parfois les alertes que nous envoient les responsables administratifs qui nous disent, ils me disent, monsieur le maire, c'est bien beau, mais je crains, voilà, je crains que l'on ne puisse pas lancer tout en même temps plusieurs marchés, parce qu'aujourd'hui, les choses sont compliquées, quoi, administrativement, techniquement. Donc, il nous faut gérer tout ça. Donc, si je veux dire, c'est pas une catastrophe si on a un taux d'exécution un peu plus bas. Il faut ensuite essayer de rattraper les choses et de faire du mieux que l'on peut. Mais moi, je suis partisan aussi de continuer à arbitrer une maîtrise de nos moyens de fonctionnement, parce qu'on pourrait très bien dire, ben écoutez, on va recruter 2 techniciens pour les marchés publics, on va, voilà, ou bien on va multiplier les appels à les délégations, à des organismes divers, etc., mais tout ça a un coût. Bon, essayons de faire dans notre configuration, qui nous permet justement de ne pas augmenter les impôts abusivement, et de faire ça. Mais ça peut être parfois compliqué. Voilà, rappelons un petit peu, Bruno et Jean-Claude, nous étions l'an dernier et l'année précédente, à quel taux d'exécution des...
75%.
Combien ?
71%.
71%, voilà. Bon. On est un peu en retrait. Voilà, d'autres... Mais tout ça mérite explication, hein. C'est normal hein, qu'on ait ce débat. Avez-vous d'autres questions ou interventions ? On a répondu à peu près, à notre façon, hein, madame Offendi. D'accord. D'accord. Bien. Est-ce que je peux vous proposer de passer au vote ? Et je vais me retirer, bien entendu. Bien entendu. Voilà, je laisse la première adjointe, donc. Requérir votre vote.
Bon, je vous propose donc, chers collègues, de bien vouloir adopter ce compte administratif 2018 tel qu'il a été présenté par notre collègue. Alors, qui est contre ? 3, 4 ? Qui s'abstient ? Bon, je vous remercie, c'est adopté.